Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Vous recevez ce matin le député de la première circonscription.
Oui, Nicolas Metzor, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va revenir sur la déclaration de politique générale du Premier ministre et notamment le passage qu'il a consacré à la Nouvelle-Calédonie. Mais avant cela, l'actualité politique en Calédonie, justement, avec le changement et la mise en place du nouveau gouvernement, c'est quasiment fait. Aujourd'hui, les choses vont pouvoir redémarrer.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde que le gouvernement d'Alcide Ponga soit en place. Il y a la répartition des secteurs qui sera officielle vendredi. Donc tout le monde sera en ordre de marche au moins pour lundi prochain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il reste à trouver une majorité à ce gouvernement parce qu'on est un peu comme en métropole, en Nouvelle-Calédonie. Personne au gouvernement ni au congrès de la Nouvelle-Calédonie qui vote les textes proposés par le gouvernement n'a de majorité. Pour une loi du pays, il faut 28 voix au congrès pour qu'elle soit adoptée. Les loyalistes plus le rassemblement au Congrès, c'est 19 élus. Et il y en a 6 de Calédonie Ensemble, il y en a ce qui fait 25, il y en a 3 de l'éveil océanien, ce qui peut amener les 28, mais on sait très bien que l'éveil océanien est très instable dans ses décisions. Et puis il y a de l'autre côté les indépendantistes. Donc il faut réussir à trouver une majorité stable parce que, comme je le disais précédemment, Alcide Ponga va avoir une lourde responsabilité. C'est un gouvernement qui a une durée de vie très limitée puisque les élections provinciales sont prévues en novembre 2025, donc il a moins d'un an devant lui pour faire énormément de réformes qu'attendent les Calédoniens et qu'attend aussi l'État. Et donc il va falloir qu'il s'appuie sur une majorité à la fois au gouvernement et à la fois au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Cette majorité, vous appelez en tout cas au gouvernement à ce qu'elle se fasse avec l'UNI.
Oui, la première raison, c'est qu'elle ne doit pas se faire avec l'Union calédonienne hein, qui a créé la CCAT, qui a eu sur sa liste et au gouvernement d'ailleurs, des gens qui ont contribué à créer, à faire vivre la CCAT, qui se sont rendus à Bakou, et même des candidats au gouvernement sur la liste de l'UC qui sont aujourd'hui en détention provisoire en métropole. Donc je trouve ça quand même assez ahurissant en Nouvelle-Calédonie qu'on puisse faire ça, nous qui sommes une démocratie, qui sommes français. Donc l'Union calédonienne pour moi est exclue. Calédonie Ensemble et l'éveil océanien, de ce que je comprends, c'est qu'ils ne veulent pas tant faire de réformes que ça. Pour eux, leur objectif, c'est d'obtenir un maximum d'argent de l'État pour que tout continue un petit peu comme avant. Alors que nous, on est dans une démarche différente. Nous, on est pour un changement de modèle, on est pour faire des réformes, on est pour favoriser la vie des entreprises et des salariés, pour redonner de l'argent aux Calédoniens, pour redonner du pouvoir d'achat, pour dégraisser un petit peu la dépense publique. Donc nous, on est pour faire des choses. Et ces actions que l'on veut mener, on les avait établies dans l'ancien gouvernement à travers le plan de Louis Mapou que tout le monde avait appelé PS2R. Donc il me semble logique d'essayer de faire une majorité avec l'UNI, à la fois parce qu'ils n'ont pas dénoncé, et parce qu'ils ont dénoncé les violences du 13 mai, qu'ils les ont condamnées, et parce qu'ils veulent changer les choses et travailler sur une refonte du modèle calédonien. Après, je vais vous dire, si l'UNI ne veut pas, parce qu'il n'arrive pas à transgresser, si vous voulez, l'unité indépendantiste, parce que c'est trop risqué pour eux, parce que la base électorale ne veut pas, etc. Bon, tant pis, on ne va pas se rouler dans la caillasse hein, pour ça. On fera avec, c'est-à-dire on va s'adapter et on fera texte par texte. Mais il faut savoir que ça sera du coup plus risqué au Congrès. Il va falloir négocier point par point chaque vote et ça peut ralentir les choses.
Alors justement, même si tout fonctionne à peu près bien, que si des majorités se dégagent sur un certain nombre de textes, le temps est extrêmement contraint pour ce gouvernement qui va rester en fonction a priori 10 ou 11 mois. Est-ce que techniquement ça laisse le temps de lancer vraiment des grandes réformes ?
On n'aura pas le choix parce que vous savez... tout le monde sait qu'on n'a plus d'argent, évidemment, qu'on a touché pas 27 milliards, mais 18, parce qu'on n'a pas fait toutes les réformes qu'il fallait.
Peut-être que demain, ça va s'arranger.
Peut-être que demain, ça va s'arranger, parce qu'il y a la TGC au programme.
TGC, oui.
Mais on a touché 18 milliards pour la fin 2024, mais ce qui est prévu théoriquement dans le budget de l'État pour 2025, c'est 120 milliards. Donc si déjà l'État avait conditionné pour 27 milliards la réforme de la CCS, la réforme de la TGC et le jour de carence... Vous imaginez ce qu'ils vont conditionner à la Nouvelle-Calédonie pour 120 milliards de francs pacifiques. Donc il va falloir un gouvernement qui fasse des réformes. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre l'initiative. Parce que si on laisse l'État nous poser des conditions, ils vont arriver avec des demandes de hausse de fiscalité. Et nous, on est contre ça, parce qu'on est pour relancer l'économie. Pour relancer l'économie, il faut être attractif, donc il faut baisser les impôts. Et donc, pour éviter que l'État nous demande d'augmenter les impôts, il faut anticiper et déjà nous proposer des mesures à l'État. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? C'est qu'il faut... aller voir l'État très rapidement à Paris pour leur dire, nous, on va baisser les dépenses publiques. Aujourd'hui, il y a trop de dépenses publiques dans notre pays. Des pléthores de directions administratives, on a des pléthores d'établissements publics, on a trop de politiques publiques d'assistanat également. Donc, il faut réduire considérablement la voilure. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de proposer avec ce gouvernement.
Est-ce que la réduction de la dépense publique passe par un certain nombre de mesures ou de projets de loi, éventuellement, ou est-ce que ça passe aussi dans les discussions que vous pourrez avoir avec vos partenaires politiques sur l'avenir de la Calédonie ?
Oh, je pense que...
Parce qu'il y a une organisation aussi institutionnelle qui fera baisser peut-être la dépense publique.
Certainement, mais le temps qu'on trouve l'accord politique, qu'on le mette en œuvre, ça sera certainement pour fin 2025, évidemment. Et derrière, ça sera pour 2026. Or, les réformes que nous demande l'État, c'est quasiment tout de suite. Donc, j'imagine que ça sera les deux, mais on a besoin d'agir urgemment. Et nous, on trouve qu'il y a des dispositifs à revoir, minimum vieillesse peut-être, qu'on ne pourra plus payer, d'autres questions très sociales, finalement, qu'on ne peut plus payer. Le nombre de fonctionnaires, quelque part, il faut dans un pays... des fonctionnaires, parce que ça permet finalement d'avoir des politiques publiques de qualité et d'avoir un contrôle sur ce qui se passe, mais aujourd'hui, on en a beaucoup trop. Je rappelle aujourd'hui que dans la population active en Nouvelle-Calédonie, il y a quasiment l'équivalent de travailleurs dans la fonction publique que de travailleurs dans le privé. Donc, aucun pays ne peut supporter ça, donc on va devoir couper dans le gras, oui.
Un mot encore sur la mise en place du 18e gouvernement. A priori, il va travailler sans vice-président, au moins au début. C'est un handicap, ça vous semble une anomalie, ou il faudrait vraiment que ce gouvernement se dote d'un vice-président ?
En vrai, il n'y a pas besoin de vice-président. Le titre, il est honorifique. Donc, je note que l'UNI et l'UC ne s'entendent pas sur la vice-présidence. On n'en a pas besoin, en vrai. Ça ne peut servir que pour bâtir une majorité. C'est-à-dire que si un groupe politique est nommé à la vice-présidence du gouvernement, c'est parce qu'il y a un deal plus global. Alors, on me pose souvent la question, pourquoi vous ne mettez pas Isabelle Chamorro, pourquoi vous ne mettez pas un nom d'indépendantiste ? Parce que ça ne dépend pas que de nous. Au gouvernement, c'est la représentation proportionnelle du Congrès. Il y a quatre loyalistes rassemblements. Enfin, il y a deux loyalistes et deux rassemblements. Le cinquième, c'est un Calédonie Ensemble. Et pour la majorité, il faut un sixième. Et ça, c'est un éveil océanien. Et donc, si l'éveil océanien dit qu'il ne votera pas pour un non-indépendantiste, on ne peut pas mettre de non-indépendantiste à la vice-présidente.
Mais vous militez pour que ce soit un vice-président, s'il doit y en avoir un, plutôt de l'UNI, plutôt que de l'UC.
Non, moi, l'UNI, c'est surtout pour...
La majorité de gouvernement.
Ouais, la majorité de gouvernance pour les réformes pour l'année. S'il n'y a pas de vice-président, ça ne me dérange pas.
Alors, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale cette nuit pour nous, a annoncé une reprise, en tout cas une volonté de reprise des discussions fin janvier. Est-ce que les choses sont déjà calées ? Il y avait eu des prémices d'invitation ? C'était le calendrier qui était a priori prévu ?
Non, mais le ministre Valls a fait le tour un petit peu des différents responsables politiques qui lui ont confirmé qu'il fallait reprendre les discussions très vite.
On est encore dans le timing parce qu'on sait qu'il faut un accord avant le 31 mars, en gros, si on veut que les choses se passent bien pour les élections législatives.
Il faut un accord politique avant le 31 mars si on veut qu'il y ait le temps pour faire une réforme de la Constitution, une loi organique, éventuellement la sollicitation des Calédoniens pour valider cet accord ou pas à travers un vote et l'organisation des élections derrière, le rétro-planning, le calendrier nous amène à fin mars. Donc si on commence fin janvier, on a du temps, mais il faudra être quand même assez efficace. Tout le monde lui a confirmé qu'on était... très partant pour reprendre les négociations très vite. C'est fin janvier parce que j'imagine qu'il attend le congrès du FLNKS du 25.
Il faudra que tous les partenaires soient autour de la table ou il faudra discuter avec ceux qui seront là ?
Nous, on a toujours dit qu'il faut que tous les partenaires soient là, mais si tous ne sont pas là, il faut quand même avancer avec ceux qui sont autour de la table. Parce que si on attend tout le monde et qu'on attend que chacun ait fini... ces petites organisations, ces petits calages, on va dépasser le calendrier. Je crois qu'aujourd'hui, les Calédoniens, ils attendent de nous de la visibilité. Ils attendent de savoir de quoi demain sera fait. Les Calédoniens, ils peuvent supporter un moment difficile si derrière, on leur offre un espoir. Mais s'ils traversent un moment difficile et que derrière, il n'y a pas d'espoir, les Calédoniens nous en voudront à juste titre. Donc moi, je crois qu'on n'a pas besoin de perdre plus de temps que ça.
C'est Manuel Valls, a priori, qui va suivre le dossier calédonien. C'est en tout cas ce que va lui demander le Premier ministre. C'est une bonne chose. On sait qu'il connaît la Calédonie, qu'il connaît le dossier calédonien, qu'il s'en est occupé quand il était à Matignon. Il a un certain historique, puisqu'il était dans le cabinet de Michel Rocard au moment de la signature des accords. Enfin bref, ça vous semble être une bonne chose ?
Alors, c'est toujours risqué pour moi de dire si c'est une bonne ou mauvaise chose, parce que si je dis que c'est une mauvaise chose et qu'il est bien, on va me dire qu'il s'est trompé. Si je dis que c'est une bonne chose et qu'il fait des trucs mal, on va me dire qu'il s'est encore trompé. ce que je peux dire sur Manuel Valls, c'est qu'effectivement, il connaît la Nouvelle-Calédonie, il connaît les acteurs. Donc, il n'y a pas besoin de faire de pédagogie, parce qu'avant, il fallait quand même expliquer qui est qui, où est Nouméa, où est Koné, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'est l'avantage. Ensuite, on verra où il nous mène, Manuel Valls. Pour l'instant, les seuls contacts qu'on a eus avec lui, c'est les questions de calendrier, de reprise des discussions. Donc, pas m'avancer plus que ça.
Alors, parallèlement à cette reprise des discussions, votre travail à Paris, ça va être de travailler sur le projet de loi de finances. On sait qu'il est essentiel pour l'avenir de l'année 2025 en Calédonie. Qu'est-ce que vous allez pousser? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui serait bien pour la Calédonie?
Eh bien, aujourd'hui, il faut tout simplement tout recommencer parce qu'à cause de la motion de censure, enfin, pas à cause de la motion de censure d'ailleurs, mais à cause du rejet du vote
du budget
à l'Assemblée nationale, il faut tout recommencer au Sénat et ça a pris du temps parce qu'il y a eu entre-temps la motion de censure. Et donc, le texte initial qui est prévu dans le budget de l'État, ce n'est pas 120 milliards de francs, mais c'est 60, c'est la moitié. Et les 60 autres milliards que nous avions trouvés, c'était par amendement. Et donc, il va falloir redéposer les amendements, refaire voter les 60 milliards de francs CFP en plus. Alors, normalement, ça va aller, hein, c'est au Sénat, il y a une majorité confortable. Mais c'est comme un match de football. Hein. Tant que ce n'est pas fini, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné. Donc il faut obtenir ces 60 milliards en plus.
Aujourd'hui, ces 60 milliards supplémentaires, c'est donc 120 milliards. C'est vraiment la somme minimale pour que la Calédonie puisse s'en sortir?
Il faudrait même un peu plus. Mais d'ailleurs, il y a un peu plus. Hein. C'est 120 milliards de prêts garantis par l'État et il y a quelques centaines de millions d'euros, donc quelques dizaines de milliards en plus pour des subventions directes pour la reconstruction des écoles et des infrastructures publiques. Donc on devrait s'en sortir à 130 ou 140 milliards de mémoire. Je suis désolé, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais ça devrait nous permettre, alors, de ne pas redevenir Singapour ou Monaco tout de suite, mais d'au moins conserver des politiques publiques de qualité et d'avoir, on va dire, suffisamment d'argent réinjecté dans l'économie pour tenir notre tissu économique. Ouais.
Il y a encore beaucoup d'inquiétudes en Calédonie. Vous le sentez sans doute lorsque vous allez sur le terrain, des chefs d'entreprise, des Calédoniens qui disent on n'a pas de visibilité. Il y a encore beaucoup de flou. Est-ce qu'il faut vraiment sortir de cette situation le plus vite possible?
Oui, il faut sortir de cette situation, je le disais. Et puis, je pense que surtout, on a besoin de changer de modèle en Nouvelle-Calédonie.
Vous parlez de renverser la table même.
Oui, on parle de renverser la table. Oui, parce que il faut se saisir de cette situation pour finalement supprimer ce qui ne marchait pas. Nous, on considère que la Nouvelle-Calédonie était un territoire suradministré, surrégulé, qui avait perdu un petit peu son esprit pionnier et qui avait perdu le fait de mettre l'entrepreneur au centre de tout. Ah, la Calédonie s'est construite avec des hommes, des aventuriers qui ont construit, qui prenaient des risques, etc. Et avec l'argent arrivé de France, avec les impôts qu'on a augmentés, avec les transferts de compétences, on a tout un peu régulé, tout cadré, enfermé. Et donc nous, on pense qu'il faut redonner du souffle à tout ça. Il faut renverser la table et il faut essayer de redevenir, alors on caricature un peu en disant ça, mais je crois que ça redonne beaucoup d'espoir aux gens, il faut redevenir une forme de Singapour du Pacifique, de Monaco, de la France, etc. Un territoire très attractif pour les entreprises, pour les richesses, parce que nous, notre objectif, c'est que tout le monde gagne de l'argent en Nouvelle-Calédonie et tout le monde augmente son salaire, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le salarié, que ce soit la fonction publique qui bénéficie de la création de richesses du privé en prélevant l'impôt. On a besoin d'être un territoire qui est attractif, qui fait venir des investisseurs, qu'ils soient métropolitains, qu'ils soient australiens, qu'ils soient néo-zélandais. On a besoin de redonner du pouvoir à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on le voit très bien, aujourd'hui ça se complique en métropole, l'État a de moins en moins d'argent, il conditionne de plus en plus le versement de l'argent à la Nouvelle-Calédonie. Donc nous on a besoin aussi de devenir très fort économiquement. Et l'histoire du monde nous a démontré que quand on a un système communiste, socialiste, on s'appauvrit. Et quand on a un système libéral type américain, type argentin maintenant, type comme on a connu à Singapour, eh ben, on développe une richesse fantastique. Donc il faut faire ça.
Vous prenez même un accord de libre-échange avec l'Australie. C'est-à-dire que vous pensez que l'enracinement régional peut être une chance aussi pour la Calédonie, y compris économiquement?
Oui, je trouve qu'on ne l'a pas assez développé. L'Australie est pour moi une grande puissance. Vous savez, l'Australie, le PIB par habitant, c'est le 10e mondial. Quand le PIB de la France par habitant, c'est le 26e. Donc l'Australie par habitant est un pays qui est beaucoup plus riche que la France. Et aujourd'hui, on a des taxes douanières plus élevées pour l'Australie que pour l'Europe. On n'a aucun accord de libre-échange avec un continent qui a 2 heures d'avion quand même. Ils sont 27 millions d'habitants. Ils ont toutes les ressources minières et métallurgiques du monde. Et ils vont continuer de grossir. Parce que jusque-là, l'Australie n'est que 10e par PIB par habitant, parce qu'ils ne sont que 27 millions. Demain, ils sont 30, demain, ils sont 35, 40. Et nous, on est à 2 heures d'avion. Et donc, il faut qu'on profite
de ce continent qui crée énormément de richesses, avec la Nouvelle-Zélande aussi. Je crois qu'il y a des choses à faire avec eux, oui.
Nicolas Metzorf, une dernière question, parce que vous suivez de très nombreux dossiers, notamment celui de la présence des drapeaux kanaks lors des compétitions sportives internationales. Vous avez saisi le ministre de la Justice et vous avez reçu une réponse de la Justice, des Sports, et vous avez reçu une réponse.
Oui, parce que comme le combat pour le drapeau sur le permis de conduire, c'est pas qu'on est contre le drapeau du FLNKS, même s'il a participé à la destruction des émeutes du 13 mai, mais il n'est pas officiel. Et moi, je suis bête et méchant, j'aime respecter l'état de droit, j'aime respecter la loi. Et l'accord de Nouméa dit que les signes identitaires de la Nouvelle-Calédonie seront validés au 3/5 par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a validé les nouveaux billets de banque, on a validé terre de parole, terre de partage, et on a validé l'hymne de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui n'est pas passé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas officiel, c'est le nom, ce qui est toujours Nouvelle-Calédonie, et on n'a pas de nouveau drapeau. Donc en fait, le drapeau du FNKS n'est pas le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. Il n'a rien à faire, et sur les permis de conduire, et dans les compétitions sportives. Et donc j'avais sollicité la ministre des Sports pour lui dire, Madame la ministre, je trouve que ce n'est pas normal de voir le drapeau du FNKS dans les compétitions sportives internationales avec des Calédoniens qui sont des Français. Et la ministre m'a effectivement répondu que les seuls drapeaux officiels était le bleu-blanc-rouge pour les compétitions internationales et le bleu-blanc-rouge et celui du CTOS, le rouge et gris avec le cagou, pour les compétitions régionales du Pacifique, notamment les Jeux du Pacifique. Voilà, c'est officiel, l'État a pris position. Comme le tribunal administratif avait pris position sur le permis de conduire, le drapeau du FLNKS n'est pas le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. Alors on me dit, oui, il y a d'autres priorités, etc. Moi, je crois qu'il n'y a que des priorités et les symboles, c'est important. Et si on laisse les indépendantistes nous imposer des choses qui sont contraire, non seulement à la loi, mais aux accords politiques qu'on a passés avec eux en 98, alors c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et donc, moi, je suis pour qu'on respecte la parole donnée. Il n'y a pas de drapeau officiel de la Nouvelle-Calédonie à part le bleu-blanc-rouge, donc il faut qu'on garde le bleu-blanc-rouge aujourd'hui. Voilà, tout simplement.
Nicolas Metzorf, pour conclure, quel va être votre calendrier? Vous avez décalé hein, votre départ à Paris, vous deviez assister à la déclaration de politique générale. Finalement, vous restez parce qu'il y a des textes importants au Congrès?
Oui, alors parce qu'il n'y avait que la déclaration de politique générale à l'agenda cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc moi, je me dis que je pouvais faire un commentaire de la déclaration depuis la Nouvelle-Calédonie. Et par contre, il y a encore de l'actualité au Congrès, puisque c'est la dernière semaine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et je suis aussi un élu du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut que je fasse mon travail. Et il y a des textes cette semaine. Donc je finis les textes cette semaine au Congrès. Je décolle vendredi soir pour être en forme lundi matin à Paris.
Nicolas Metzorf, député de la première circonscription, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci beaucoup.